Il est étonnant, frères et sœurs, de constater que dans notre vie, souvent, nous pouvons nous tromper. Ça nous arrive et ça arrive à tout le monde. Si je vous posais cette question en forme de devinette, à votre avis, en 35 années de ministère pastoral, quelle est la question que j'ai la plus entendue ? Qu'est-ce que vous me répondriez ? Eh bien, la question qui m'a été le plus souvent adressée, c'est celle-ci. Monsieur le pasteur, vous ferez bien une petite prière pour moi. Quelqu'un m'a un jour tendu et c'est véridique, un billet de 50 euros, et m'a dit, monsieur le pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi. Et il voulait me donner les 50 euros. Alors évidemment, j'ai refusé les 50 euros, mais je n'ai pas refusé la prière. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais pourquoi voulez-vous que je prie ? Et il m'a répondu, mais parce que vous, monsieur le pasteur, vous êtes pasteur, vous êtes saint, donc Dieu va vous écouter. Et c'est étonnant comme on peut se tromper. Je vais vous raconter une histoire, vous voulez ?
Oui,
d'accord. Alors c'est un jour, Billy Graham, qui après une série de prédications aux États-Unis était très, 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 très fatigué. C'était sa dernière soirée et il est sorti exténué. Et alors que son chauffeur l'attendait, il s'adresse à son chauffeur et lui dit « Je suis tellement fatigué, pour me relaxer, laisse-moi le volant. » Et le chauffeur de Billy Graham lui dit « C'est pas possible, monsieur Billy Graham, laissez-moi vous conduire. »« Non, 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 laissez-moi conduire. » Alors le chauffeur a dit « Bah écoutez, il n'y a pas de problème. » Alors le chauffeur s'est mis derrière, Billy Graham s'est mis au volant, il avait les vitres teintées évidemment, tout ça. C'est américain, hein. Donc, vitre teintée, tout ça. Et puis Billy Graham a commencé à rouler. Et puis il était tellement fatigué qu'il appuyait sous le champignon. Puis vous savez, aux États-Unis, ils sont très stricts avec les limitations de vitesse. Et à un moment donné, il y a un motard qui l'arrête. Et Billy Graham se met sur le côté. Et le gendarme lui dit bonjour. Puis il reste baba, quoi. Puis il prend son téléphone, il appelle son chef, il dit « Chef, j'ai fait une erreur. » Et l'autre lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Dis, mais écoutez, j'ai fait une erreur, j'ai arrêté quelqu'un de très important. » Et au bout du fil, l'autre lui dit « Mais t'as arrêté qui ? T'as arrêté le maire ?»« Oh, c'est plus que le maire !»« Bah, t'as arrêté un consul ?»« Non, c'est plus que le consul !»« T'as arrêté un député ?»« C'est plus que le député !» T'as pas arrêté le président de la République quand même. Et Billy Graham et l'agent de police lui dit c'est pire que ça, chef. Il dit écoutez, je crois que j'ai dû arrêter Jésus-Christ parce que Billy Graham c'est son chauffeur. Alors dans la vie. Dans la vie, on peut se tromper. Et je pense qu'il est important de nous rendre compte que la foi, c'est une relation à Dieu dans la prière. Et que la prière n'est pas réservée, entre guillemets, à une élite, si cette élite existe, mais elle est adressée pour chacun d'entre nous. Et vous connaissez ce texte de Matthieu 6, à partir du verset 5, où Jésus nous met en garde. Et il nous donne toute une liste de choses à veiller. Et il nous dit, quand vous priez, ne soyez pas hypocrites. Laissez ça à ceux qui aiment prier dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et donc, la prière, c'est un moyen d'entrer en relation avec Dieu. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Alors, je ne sais pas pour vous, Mais c'est un verset, prier sans cesse, qui m'a, au début de ma conversion, culpabilisé. Parce que si nous regardons les choses en face, il faut constater que c'est parfois dur de prier. C'est dur pour diverses raisons. Comment arriver à prier véritablement et personnellement? Quelles sont nos difficultés? Quels sont nos obstacles à cet encouragement à prier? En découvrant pourquoi prier est difficile, nous découvrirons aussi, je l'espère, pourquoi nous devons prier, pourquoi il est si important de prier et pourquoi c'est bénéfique. Alors je voudrais commencer par nos difficultés dans la prière. Tous, pasteurs compris, nous avons un jour traversé un désert spirituel. Nous avons perdu l'enthousiasme. Du coup, la vie de l'homme se dessèche de l'intérieur et parfois nous désirerions prier, vraiment prier, mais je ne sais pas si c'est vous est arrivé, mais notre prière vagabonde, elle devient stérile. Et du coup, nous abandonnons la prière. Je me souviens de mon enfance, quand j'étais tout petit, avec mes trois frères et maman, nous étions à genoux au pied du lit et nous prions. Maman nous demandait de prier chacun notre tour. Et dans ma petite tête de gamin, j'avais une prière toute faite que je récitais, avouons-le. Et un jour, mes pensées sont parties à vagabonder. Et cette prière que je répétais, je l'ai répétée trois fois. Et à un moment donné, ma mère me dit, mais tu l'as déjà dit ça. Et c'est vrai que parfois, il peut nous arriver, quand nous prions, de vagabonder. Et nous nous enfermons dans ce que j'appellerais un cercle vicieux. Et ce phénomène est accentué évidemment par la fatigue. Le soir, tout nous pousse à nous poser dans le canapé. La télé n'est pas loin, le journal non plus. Et demandez-vous d'ailleurs ce que vous avez fait hier soir. Hein ? La télé, je pense. Donc, souvenons-nous des disciples de Jésus à Gethsémané. Au lieu de prier comme Jésus leur avait demandé, ils se sont endormis. Et nous sommes souvent semblables à ces disciples. Nous nous endormons épuisés par notre journée, sans avoir pris le temps de nous poser devant Dieu. Prier, c'est dur, parce que nos agendas sont bien remplis. Mais éliminons d'emblée tous les prétextes, comme le manque de temps. Nous trouverons, me semble-t-il, toujours le temps de vivre. Et nous devons prendre le temps, trouver le temps de parler à Dieu. Un autre problème récurrent, c'est le sentiment que Dieu ne répond pas à nos prières. Nous avons l'impression que Dieu ne nous exauce pas. Du coup, on serait tenté de se poser la question, prier, n'est-ce pas dérisoire? Au final, les jours se succèdent avec leur cortège de choses à faire sans que nous prenions le temps de prier. Nous enfilons les activités comme un collier de perles. Mais un jour, usé, le fil casse et les prières s'éparpillent. On se sent perdu. On recherche le fil de la vie et on se pose ces questions. Mais qu'est-ce qui tenait les perles ensemble? Qu'est-ce qui donnait une cohérence à l'ensemble de mon collier? Et en y réfléchissant bien, on se dit que ce fil est important. Et ce fil, c'est la prière. C'est ce qui nous donne de la cohérence et c'est ce qui nous permet de nous adresser et d'adresser nos besoins à Dieu. Ne nous décourageons pas, ne désespérons pas. La deuxième chose que je voudrais toucher, c'est l'importance et les chances de la prière. Lorsque Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, évoque comment prier, on voit le Seigneur dans le contexte se retirer dans un lieu isolé, seul, pour prier. Et là, Jésus s'adresse à son Père. Et il veut ici nous donner un exemple, nous dire combien prier c'est important. Important de se tenir dans la présence gratuite de Dieu. Prier, c'est pour reprendre l'image du collier, faire se tenir ensemble les perles de notre vie. Recueillir, rassembler toutes les parties de sa vie, de son être, dispersées par les événements de la vie, les soucis, les rencontres, le travail, le brouhaha de la vie. Prier donne aussi une cohérence à l'ensemble de ce collier. Les disciples prieront Dieu, leur Père. Cette prière que le Seigneur nous a enseignée, que nous lui avons adressée tout à l'heure. Et ce sera la cohérence de leur vie. Ça sera leur fil d'Ariane. Cesser de prier, de garder ce lien, c'est prendre le risque de se perdre. En priant, je parle à Dieu. En priant, je lui confie ce que j'ai en moi. En priant, j'apprends à l'écouter. J'apprends à le laisser venir. J'apprends à le laisser agir. J'apprends à remettre ma vie entre ses mains. Se recueillir nous permet de rétablir nos priorités. En déposant à Dieu mes actions, mes pensées, mes projets, il y a une hiérarchie qui s'établit entre ce qui est fondamental pour moi dans ma vie et ce qui est secondaire. Et je sens alors que la prière, c'est comme un tamis, comme un filtre. La prière recentre ma vie, mes attentes, ma vocation. Et je comprends alors pourquoi Jésus se retire pour prier. Il ressent le besoin de se retirer pour prier avant de se lancer dans une nouvelle étape de son ministère. Car même si cela nous étonne, même si c'est nouveau pour nous, même si nous l'apprenons que maintenant, Jésus a besoin de se ressourcer. Car même le Fils ne peut pas agir sans son Père. Deuxièmement, j'aimerais parler de ce temps de repos. Blaise Pascal disait « J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une pièce isolée ou dans une chambre. » Et c'est vrai que nous vivons dans une société où nous devons toujours courir. Nous devons nous dépêcher pour faire ceci, nous dépêcher pour faire cela, courir pour aller là. J'ai envie de dire que la prière, ça repose. La prière, ça repose. même si ce n'est pas son intérêt premier, la prière, ça repose. Parce que nous sommes en recueillement. Cela calme notre agitation physique et émotionnelle. Prier, c'est prendre le temps de nous reposer, de nous poser, de nous confronter à nous-mêmes. Et la prière du soir peut être le lieu où l'on dépose tout ce qui a fait notre journée, avec ses bons et ses moins bons moments. Et en déposant tout cela devant Dieu, on se sent alors beaucoup, beaucoup moins seul. Quelqu'un porte avec moi ce que j'ai vécu dans ma journée. Et ma journée, je la sens moins lourde. Et parfois même, j'y vois plus clair. Je me tranquillise. Il y a un cantique, un très vieux cantique que nous les anciens, là je m'adresse aux anciens, nous les anciens nous connaissons bien parce que nous chantions si souvent dans les cultes. Vous souvenez-vous de ce cantique qui disait « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut ». Et puis je dirais aussi, troisièmement, que la prière, c'est une intimité avec Dieu. Adresse ta prière à Dieu dans le secret, dit Jésus. Prier, c'est converser avec Dieu. Converser avec Dieu. Mais ce n'est pas rebâcher avec Dieu. Rebâcher, ce sont les païens qui le font, dit Jésus. Quand nous prions, nous ne rebâchons pas. Nous confions à Dieu. Nous conversons avec lui. Quelques mots suffisent pour que Dieu nous entende. C'est un dialogue personnel qui entretient l'intimité avec Dieu. Alors on nous objectera, mais est-ce que c'est bien utile ? Pas toujours. Eh bien, je dirais que prier, c'est au-delà de l'utile. Parce que je ne prie pas toujours pour quelque chose, mais je prie parce que j'aime Dieu. Je ne prie pas toujours pour demander quelque chose à Dieu, mais je prie parce que j'aime Dieu. Qu'est-ce que vous penseriez de moi si je vous parlais à chaque fois pour vous demander quelque chose, mais que jamais je ne vous remercie ou que jamais je ne vous demande comment vous allez, ce que vous faites aujourd'hui. À un moment donné, vous me diriez, écoute Jean-Claude, t'es bien sympa, mais je commence à en avoir marre. Parce qu'à chaque fois que tu me vois, c'est pour me demander quelque chose. Mais il y a des gens comme ça qui s'adressent à Dieu que pour lui demander quelque chose. Je prie. Je parle à Dieu parce que j'aime Dieu, parce que j'aime me tenir en sa présence. La prière est aussi inutile et indispensable qu'un moment passé en compagnie de celui ou celle que l'on aime. C'est une réponse gratuite à l'appel de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que cette intimité accroît, développe et construit ma relation avec Dieu. À ce moment-là, Dieu n'est plus le lointain, il est le tout proche, il est celui qui me comprend. Alors, si pour moi prier devient un plaisir, ce ne sera plus, comme je l'ai souvent pensé dans mon enfance, un devoir. Cela se transformera en un temps de rencontre qui va façonner ma relation avec Dieu et qui va me procurer de la joie, qui va me procurer une paix intérieure. Et puis, la quatrième chose que je voudrais dire, et là je suis conscient de m'adresser à des évangéliques, c'est que le silence est important. Le silence, on le trouve volontiers chez les luthériens, chez les réformés, chez les catholiques, mais on ne le trouve pas souvent chez nous, les protestants évangéliques. Nous n'aimons pas trop le silence. Et je me rappelle au début de mon ministère pastoral, quand j'étais là, que je me tenais devant mes paroissiens et que je leur demandais de prier, comme on l'a fait à l'heure à haute voix, et qu'il y avait un long silence. Dans ma tête, j'étais triste, je me disais, mais ils n'ont rien à dire à Dieu. Et j'ai très vite compris avec le temps que le silence, c'est important devant Dieu. Que Dieu aime le silence. Rappelez-vous d'Élie. Dieu va se révéler à Élie dans le silence d'un souffle qui s'évanouit. Prier, c'est aussi se tenir en silence à côté de Dieu, comme deux amis intimes qui n'ont pas toujours besoin de se parler pour communiquer. Il suffit d'un seul regard. Vous le savez, Joël et moi, nous avons eu trois filles. Et quand ça se passait pas trop bien avec les enfants pendant les repas, quand on avait des amis, il suffisait d'un seul regard. Et les filles avaient compris. Deux amis, côte à côte, qui n'ont pas besoin forcément de se parler pour se comprendre. Le silence pour se laisser rejoindre par Dieu. Et ce que j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, c'est que le silence, ce n'est pas un vide. C'est vrai que le silence peut nous faire peur. Peur de nous retrouver avec nous-mêmes. Parce que nous retrouver avec nous-mêmes devant Dieu, c'est nous retrouver du coup sans phare, sans discours. Éric de Nimal, que tout le monde connaît, dit « Il faut parfois se coltiner avec Dieu ». Alors c'est une phrase qui peut nous heurter, mais elle est vraie. Il faut parfois se coltiner avec Dieu, et c'est dur. Mais dans le silence, nous pouvons se dire beaucoup de choses. Et là, c'est pas très évangélique, mais je vais le faire. Je voudrais citer sœur Thérèse d'Avila, qui est à mon avis une bonne fréquentation. Elle a écrit beaucoup de choses. Sœur Thérèse d'Avila disait « Il nous faut retrouver l'amitié du silence. » Et j'aime beaucoup cette phrase. Parce que nous vivons dans une civilisation qui est super bavarde. Nous vivons dans une civilisation qui a la bougeotte. Or, dans la prière, il faut savoir apprivoiser le silence et la non-action. Alors j'y arrive. Comment ? Comment y arriver ? Eh bien, premièrement, je dirais que lorsque la prière devient difficile, et c'est notre cas à tous, nous pouvons créer un environnement propice. Jésus, nous l'avons lu tout à l'heure, il aimait se retirer dans le désert. Et là, tout seul, il passait du temps avec Dieu. Jésus aimait se retirer dans le désert ou sur une barque. Alors, sans aller en haut de la tour Eiffel, nous pouvons nous aménager un espace tranquille et retiré, même dans notre appartement, même dans notre pavillon. Nous pouvons peut-être même fixer notre attention à l'aide d'une musique, à l'aide d'une lumière. Nous sommes libres d'utiliser ce qui peut nous aider à prier. Personnellement, la musique des vieux cantiques m'aide beaucoup à prier, m'aide beaucoup à méditer sur Dieu. Et hier, nous, avec Joël, nous partions à Gobert parce que j'avais un enterrement à faire à Gobert, et j'avais passé ce chanteur qui est à la mode aujourd'hui, mais qui se met à chanter des vieux cantiques. J'ai oublié son nom. Voilà, redis. Voilà. Et j'aime beaucoup ce CD parce qu'il chante des vieux cantiques. Et quand il chantait ces vieux cantiques, ça m'aidait à prier intérieurement. Ça m'aidait à méditer. Et j'aime personnellement ces airs de vieux cantiques qui m'aident à prier. Et deuxièmement, je dirais que notre prière doit se nourrir de la Bible. Alors, le temps nous manque, mais nous pourrions regarder les exemples laissés par différents personnages de la Bible. Pensons à Salomon, pensons à tous ces psaumes. Les psaumes sont en fait 150 prières dans lesquelles chacun de nous peut se retrouver. Il y a 150 prières, il y a 150 cas où tu peux te retrouver pour adresser à Dieu ta prière. Alors si c'est le psaume 119, bon courage. Parce que là, tu en as pour 2 heures. Mais la prière, c'est prendre le temps avec Dieu. De comprendre ce que nous disons, ce que nous chantons. Quand nous terminions ce moment de prière avec maman et mes 3 frères, hein, on récitait le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et lorsque j'ai découvert cette prière, j'étais étonné, parce que dans ma petite tête d'enfant, c'était « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont tant fessés. » Et je n'avais pas compris. Et c'est tellement important de lire et de comprendre ce que nous disons à Dieu. Regardez dans Acte 2, les disciples se retrouvent notamment ensemble pour prier. Et si vous regardez bien Acte 2, vous verrez que les disciples ne se retrouvent pas pour prier comme un devoir. Ce n'est pas un devoir pour eux, mais dans le but, ils prient dans le but de se porter mutuellement, de partager, d'être fortifiés par la prière des autres. Parce que la prière de l'autre, pour moi, c'est une force qui me fait vivre. Qui, ici, dans cette église ce matin, n'a jamais vécu le soutien de la prière d'autrui ? Surtout dans les moments difficiles, nous nous savons porter, nous nous savons encourager. Et c'est pourquoi il est tellement important, frères et sœurs, que nous prions les uns pour les autres. Dans notre église, il y a un carnet de prière. Est-ce que nous l'utilisons, ce carnet de prière ? J'aime dire que ma voiture, c'est un sanctuaire de prière. Parce qu'entre 2 visites, il y a la route, et il n'y a rien d'autre qu'à faire qu'à regarder la route. Alors je prie. Rassurez-vous, je prie les yeux ouverts. Et prier tisse des liens. Crée des liens, crée une communion qui nous donne la force d'agir. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Nous prions les uns pour les autres. Il me reste 30 secondes et je termine. La question finalement que chacun de nous peut se poser ce matin, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui me fait vivre ? Qu'est-ce qui me fait vivre ? Qu'est-ce que nous mettons au centre de notre vie ? Dieu ne devrait pas être en périphérie de notre vie, mais il devrait être au centre de notre vie pour nourrir et éclairer notre vie. Jésus, Paul, nous encourage à revenir à Dieu le plus souvent possible, comme on le fait avec un ami proche. Chacun d'entre nous a des liens différents avec ses amis. Pourtant, vous savez aussi bien que moi que si vous ne faites aucun effort pour reprendre contact avec vos amis, pour les appeler, pour les voir, pour les écouter, pour partager avec eux quelque chose d'important ou pas, le lien entre vous va diminuer. Et une amitié, ça s'entretient. Ça s'entretient, une amitié. Parce que si on ne l'entretient pas, avec le temps, elle s'use. Et j'ai appris à bannir de mon langage. Il faut qu'on se voie, nous. Il faudra que tu viennes manger à la maison un jour. Parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire du tout. Combien de fois est-ce qu'on m'a dit « Jean-Claude, tant tu viens quand manger ?»« Bah, c'est quand tu veux, mon vieux. »« Bon, eh ben, on se téléphone. »« Ah bah oui, mais pourquoi tu me le dis pas maintenant ?» Ça serait facile. Comme ça, on serait sûr de se retrouver. Mais nous sommes tous pareils. Moi, le premier. Mais s'il vous plaît, pas de ça avec Dieu. Pas de « Seigneur, j'ai pas le temps. Je te prierai ce soir. » Je te retrouverai demain. Chacun de nous, nous entretenons notre amitié. Nous devons entretenir aussi notre relation avec Dieu. Mais si nous reprenons contact avec un ami, nous savons que les choses peuvent renaître. Il y a quelque temps, j'ai reçu un appel téléphonique d'un inconnu. Il dit « Jean-Claude ?»« Ouais, c'est Jean-Paul. » Jean-Paul, j'en connais plein. Ah, il me dit, mais moi, tu me connais bien. Et il me jouait avec moi pendant 5 minutes, 10 minutes. Et au bout d'un moment, je dis, excusez-moi, je vois pas du tout. Mais il me dit, Jean-Paul, ton voisin avec qui tu jouais aux billes. Il s'est rappelé que j'étais protestant. Il a eu l'idée d'aller sur le site de la Fédération protestante. Puis il a vu Chong. Alors il m'a appelé. La dernière fois qu'on s'est vu, je sais pas, j'avais peut-être 15, 16 ans. C'est extraordinaire. Et depuis, on se téléphone, il m'appelle, je l'appelle, et on va se faire une bouffe. Mais, mes amis, c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Prenons le temps de lui parler. Prenons le temps de lui parler. Et je racontais cette histoire, je termine maintenant. Il ne faut jamais croire un pasteur quand il vous dit « je termine hein. ». Mais je termine vraiment. Je termine vraiment. Merci. Merci. Non, je termine avec cette histoire que je racontais hier au cimetière pendant cet enterrement. C'est un prêtre qui passait du temps dans la prière, qui passait du temps, mais du temps et des heures et des heures et des heures. Et un jour, un novice vient le voir et lui dit « Mais père, pourquoi est-ce que vous prenez tant de temps dans la prière, des heures et des heures ?» Et le prêtre a répondu ceci « Je parle à Dieu parce que Dieu maintenant connaît ma voix. » Et le jour où j'aurai besoin de lui, il reconnaîtra ma voix. Ben, mes amis, ça c'est extraordinaire. Dieu reconnaîtra notre voix. Alors, c'est important de lui dire, Seigneur, comment tu vas ce matin? Ensemble, on va cheminer toute cette journée. Moi, je ne la connais pas, toi, tu la connais. Seigneur, aide-moi à rentrer dans ton plan. Que tout ce que je fasse aujourd'hui soit pour ta gloire. À tout à l'heure, Seigneur. Et on prend du temps, et c'est tellement important. Justement, je vous propose de prier. Seigneur, merci, parce que tu es notre ami fidèle et tendre. Merci parce que, comme toute personne, tu aimes qu'on te parle. Seigneur, merci de tout notre cœur. Pour ta grâce. Merci parce que nous pouvons nous approcher de toi à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas une heure précise où nous devons te parler et où tu décroches. Seigneur, tu es toujours là pour répondre. Et nous voulons simplement, mais de tout notre cœur, te dire merci, Seigneur. Merci beaucoup. Amen.